voilà, nous y sommes en 2026 et nous nous retrouvons tous ensemble sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle année. Pour cette nouvelle année, et j'ai plaisir à retrouver Bonjour Camia dans la technique. J'espère que tout s'est bien passé pour toi et que tu vas avoir une belle année, au moins une partie avec nous ici. Et on est content de t'avoir dans l'équipe. Je retrouve avec grand plaisir Marie-Ange,
bonjour,
qui est une ancienne de Comaguerre et qui nous rejoint. Et je suis très très content de la retrouver à
c'est
ce
vrai,
micro.
Ça fait plaisir.
Et moi aussi.
Où elle a partagé, on a partagé ensemble des grands grands moments de l'histoire. Pas tout à fait les mêmes, mais je me souviens encore de l'après-invasion de l'Irak.
L'Irak, oui.
Et donc, on était déjà derrière ce micro en 2003, au moment où une partie de l'opinion mondiale disait qu'il ne fallait pas faire la guerre en Irak, y compris le gouvernement de la République française. Je le rappelle, là, la situation a totalement changé. J'aurai l'occasion d'insister là-dessus. Donc, ça, c'est des vieux, vieux souvenirs que je vous fais partager. Et c'est les souvenirs des anciens, à la limite, aux plus jeunes générations, qui sont la génération de Camia, puis toutes les générations intermédiaires, parce que on a vécu tout ça, toutes ces horreurs impérialistes qui continuent, qui ne sont pas finies et qui viennent de se continuer dans des conditions incroyables ces derniers jours. Et puis je suis très content de retrouver Habib, comme d'habitude, hein, qui est fidèle là pour faire un tour.
Et surtout, c'est que la période que la Syrie a passée,
voilà,
une période de 20 ans pratiquement,
Tu fais bien de le rappeler. On a la mise à mort de la Syrie, car on peut bien appeler ça comme ça, a duré très très longtemps. Elle a été entamée sous le premier mandat de Bush, avec les premières mesures de boycott, d'affaiblissement de la Syrie. Elle a continué. Elle est passée à la phase militaire à partir de 2011. Et elle s'est achevée par épuisement de la Syrie, de son peuple et de son gouvernement. Hein, c'est jamais qu'un épuisement.
Ethnique.
Voilà, épuration ethnique, voilà. On est encore là-dedans. Et donc, on ne peut que souhaiter, c'est un des souhaits qu'on peut faire en ce début d'année, une Syrie qui renaisse des cendres qui ont été accumulées par d'autres. Car la Syrie, on lui a mis le feu et ça a été un plan concerté depuis, en gros, l'arrivée de petit Bush au pouvoir à Washington. Ouais. Voilà, dans quel contexte se situe ce début d'année ? Et puis alors, on se rendait compte en arrivant que nous avons fait notre dernière émission il y a de ça 15 jours, et qu'en 15 jours, la table a été renversée, comme on dit couramment, par les interventions sur lesquelles on va s'arrêter. Mais il ne faut pas commencer par le Venezuela, car ça a commencé bien avant. Ces 15 jours ont été d'une extraordinaire densité politique, et il s'est bon quand même de refaire le point, parce que c'est rare qu'en si peu de temps, surtout dans ce qu'on appelle d'habitude, c'est évidemment complètement inapproprié, il n'y a pas eu de trêve des confiseurs. J'espère que les confiseurs ont fait leur chiffre d'affaires, mais la trêve, il n'y a pas eu de trêve du tout. Ça a été un des pires moments de l'histoire contemporaine. Alors, je commence par un peu avant le Venezuela. Il faut savoir que les États-Unis ont décidé d'attenter à la vie de Vladimir Poutine en disant qu'ils l'avaient raté ou qu'ils avaient tiré juste à côté, peut-être par commisération. Toujours est-il qu'il y a eu une tentative d'assassinat ou de mise en garde. Alors on peut interpréter ça des deux façons. Le tir passe à si près, c'est peut-être près. Tout à fait, enfin, viser la zone où Vladimir Poutine a une résidence secondaire à côté de Novgorod, c'est à l'ouest, au nord-ouest de Moscou, et dire qu'on l'a raté, ça voulait dire que, attention, la prochaine fois, c'est peut-être le coup de semonce, la prochaine fois, tu y auras droit. Je pense que le message a été reçu et qu'il a été parfaitement compris, mais on en était là. Et il faut savoir, j'insiste là-dessus, parce que ça fait partie de la trame des événements, que Benjamin Netanyahou était dans le bureau de Donald Trump depuis le 29 décembre. Et que tout ce qui s'est passé depuis cette période-là s'est fait avec ce personnage qui tirait les ficelles d'un Trump dont on connaît les limites cognitives. La limite cognitive, elle est aux États-Unis, elle n'est pas en Israël. Le Mossad est toujours actif et il a toujours cette intelligence perverse, destructive, qui est sa caractéristique. C'est ça la donnée fondamentale qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'on a assisté à une espèce, alors on le voyait venir depuis un certain temps, d'inversion du rapport d'influence. Je ne parle pas des capacités matérielles, je ne parle pas du nombre de chasseurs-bombardiers ni du nombre de bombes atomiques. mais d'inversion du rapport d'influence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le Mossad qui est dans la tête de Donald Trump. Parce que Donald Trump, il n'y a pas grand-chose dans sa tête. Il est en crise cognitive. On l'avait vu à partir de son discours du 17 décembre où il avait dit n'importe quoi. Donc, il ne maîtrisait plus sa connaissance et sa parole. Donc, la parole est à nouveau maîtrisée et elle est maîtrisée par le tireur de marionnettes. Soyons bien, bien clairs là-dessus, car tout autre récit serait fallacieux. On ferait apporter à preuve. Il faut voir que Rubio, Exet, ce sont des personnages extrêmement faibles intellectuellement, qui vivent que dans le sentiment de revanche, de casser des figures, de tuer des gens et tout. Il ne se passe rien dans leur tête, si ce n'est une espèce de haine banale, stupide, vis-à-vis de l'étranger en général. Ce n'est pas ça. Là où il y a une tête pensante, c'est dans la tête du Mossad et de ses dirigeants. La meilleure preuve en est, puisque je suis sur ce chapitre, que c'est pendant cette période folle que Israël a décidé de reconnaître le Somaliland. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître le Somaliland ? Ça veut dire prendre un morceau du continent africain, qui, on le sait, par ailleurs est agité par toute une série de mouvements contradictoires visant d'un côté à son émancipation définitive du colonialisme, de l'autre côté à le remettre définitivement dans un rapport néocolonial jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc c'est la première implantation officielle d'Israël, du Mossad, sur le continent africain, et ça consiste à arracher à la Somalie, qui est un État en difficulté, c'est incontestable, mais qui est souverain jusqu'à nouvel ordre, une province qui s'est autonomisée de fait depuis plusieurs années, qui vit toute seule, qui n'est reconnue par personne. Et quand donc Israël décide de reconnaître le Somaliland, il jette une pierre globale dans l'édifice mondial de représentation des États. C'est-à-dire, il considère et il dit, ce que chacun peut constater, hélas, que l'ONU ne pèse rien. La reconnaissance d'un État par l'ONU, ça vaut rien, puisque là, Israël dit, moi, je prends un morceau de la Somalie, c'est à moi, et vous pouvez toujours grogner, c'est pareil. Voilà ce que ça veut dire, la décision du Somaliland. Alors, qu'est-ce que c'est que le Somaliland ? Alors, rappelons-le, puisque dans l'histoire longue et compliquée de la Somalie, il y a eu plusieurs colonisateurs dans la Somalie, en particulier un colonisateur italien et un colonisateur britannique.
Ouais.
Et la partie britannique de la colonie somalienne, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le Somaliland. En gros, c'est un morceau de terre qui est en bordure sud du golfe d'Aden et qui donne donc sur l'entrée de la mer Rouge, du canal de Suez. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Bon. Ouais. S'installer là, pour Israël et pour l'Empire états-unien, c'est s'installer à un endroit absolument stratégique. C'est le contrôle de la mer Rouge. C'est le contrôle indirectement à l'autre bout de la mer Rouge du canal de Suez. C'est le contrôle d'un quart du trafic pétrolier mondial. C'est le contrôle d'une bonne partie du trafic des marchandises entre l'Europe et l'Asie. C'est un endroit absolument stratégique. C'est aussi, au passage, être à portée de tir pour massacrer les Houthis du Yémen. Il suffit de tirer, il y a juste la mer à traverser. Voilà tout ce que c'est que le Somaliland. Et c'est avoir un port qui existe déjà, qui fonctionne. Cet État, qui n'est reconnu par personne, fonctionne depuis 20 ans. Et il a un budget, il a des ministres, il a un gouvernement, il a des recettes et tout, et il a un port. Et ce port a une histoire, ce port s'appelle Berbera. Et devinez qui en était le gestionnaire avant que ce ne fussent les Émirats Arabes Unis. C'était un certain Vincent Bolloré. Allez. Ça vous dit rien, ça ? Vincent Bolloré, l'homme qui travaille toujours avec les services de renseignement et qui travaille toujours pour la colonisation. Bon, Bolloré a compris à un moment donné que le colonisateur français en Afrique commençait à avoir des difficultés à maintenir sa présence. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vendu tous ses ports, il a vendu tous ses chemins de fer, il a vendu toutes ses zones de transport, tous ses camions et tout, et il s'est installé, on le sait, dans les médias, parce que là, c'est plus tranquille, on risque pas d'être braqué au coin d'un rue. C'est ça. Bon, qui a pris la place de Bolloré et donc de sa filiale spécialisée dans les ports ? C'est les Émirats Arabes Unis qui ont une filiale spécialisée qui s'appelle Dubai Ports World, qui gère des terminaux pétroliers de containers dans la totalité du monde. Et donc, on a donc une alliance entre les Émirats Arabes Unis, j'insiste là-dessus, les Émirats Arabes Unis, donc un énorme coffre-fort avec à sa tête un voyou. Je dis le terme parce que c'est un voyou qui utilise cet argent pour faire des coups tordus. Il envoie de l'argent en Libye, il envoie de l'argent en Palestine pour soutenir des milices anti-palestiniennes. Enfin, voilà, ce monsieur a un trésor et il ne s'en sert qu'à faire le mal. Voilà. Et donc, on a ça qui est derrière le Somaliland. Et le premier épisode de l'utilisation du Somaliland est intéressant à rappeler, car c'était, alors je ne me souviens plus exactement de l'année, un beau matin, l'Éthiopie, qui est dirigée aujourd'hui par M. Abiy Ahmed, toujours, décide de s'installer au Somaliland pour avoir une ouverture sur la mer. Vous savez qu'il y a des gros problèmes de l'Éthiopie, c'est de ne pas avoir de débouchés maritimes. Le débouché de Djibouti, il est perdu, puisque Djibouti est perdu jusqu'à nouvel ordre. Djibouti est indépendant. Elle a perdu le débouché de l'Érythrée, puisque l'Érythrée a arraché par la force militaire son indépendance après une guerre très très longue, donc depuis 1992. Et tout ça fait que l'Éthiopie passe son temps à essayer de trouver un accès à la mer. Et ils avaient eu cette idée, donc il y a de ça 2-3 ans, de dire « Ah ben on va passer par le Somaliland ». Et les Somalilands trouvaient ça très bien. Et à l'époque, le dirigeant éthiopien avait dit « on va reconnaître le Somaliland ». Et puis il s'est aperçu qu'il mettait les pieds dans un bourbier épouvantable et il a retiré son idée. Il s'est arrêté en disant « ça va être impraticable ». Et puis peut-être l'allié Émirats Arabes Unis n'est pas un allié très très fréquentable. Bon, arrivé à régler un problème géopolitique en travaillant avec un voyou, c'est pas toujours très commode et ça amène à des lendemains qui peuvent déchanter. Donc, il ne s'est rien passé. Mais l'idée d'utiliser cet endroit-là qui est stratégique est restée et qui s'en est emparé aujourd'hui, donc c'est Israël. Et Israël manifeste ainsi que désormais le Mossad et derrière lui les États-Unis et Israël, avec toutes leurs bombes atomiques les uns et les autres, sont destinés à intervenir sur l'évolution globale du continent africain. C'est ça que ça veut dire. Car quand on est à cet endroit-là de l'Afrique, on peut rayonner d'abord sur la partie orientale, donc je veux dire Kenya, Tanzanie, etc. Et intervenir aussi de l'autre côté, c'est très facile. Et intervenir dans la gestion des ressources minérales fabuleuses, je pense au Congo, mais je ne pense pas qu'au Congo, aux ressources en diamants, aux ressources en or, etc. Donc c'est l'endroit où il faut être pour se livrer à la rapine occidentale impérialiste classique. Ça s'est passé aussi dans ces 15 jours. On ne l'a pas vu suffisamment. Mais c'est très, très important pour la suite, car on pourra en parler peut-être plus en détail dans une émission successive. L'agitation en Afrique est considérable partout. On a vu donc la tentative de renversement du gouvernement du Bénin qui a échoué, jusqu'à nouvel ordre, puisqu'en fait, il y aura des élections présidentielles au Bénin dans 3 mois, mais il n'y a plus d'opposition. L'opposition est interdite, donc le résultat est à peu près acquis. Il n'y aura qu'une opposition militaire ou armée possible, on verra bien ce qui se passera. Bon, je n'insiste pas là-dessus, mais il y aura tout un développement à faire sur les évolutions dans la situation africaine. L'Afrique du Sud est bien entendu visée, comme étant le mauvais garnement qui travaille avec les BRICS, qui travaille avec la Chine, avec la Russie, etc. Bon, donc il y a toute une série d'enjeux. L'Algérie est visée d'une certaine façon. Bon, n'anticipons pas par rapport à d'autres émissions. Rappelons simplement, pour parler de l'Afrique, d'une façon très très globale. Ce qui est très très important, c'est de voir ce qu'est la population africaine d'aujourd'hui. Alors c'est pas beaucoup, c'est 1,4 milliard d'habitants, c'est autant que les Chinois. Alors on peut dire finalement à l'échelle mondiale, c'est pas énorme, mais en fait la particularité, c'est que l'âge médian des Africains aujourd'hui, écoutez bien, l'âge médian, c'est l'âge auquel il y a la moitié de la population qui est plus jeune et l'autre moitié qui est plus âgée. L'âge médian de la population africaine d'aujourd'hui, c'est 19 ans.
Ouh là là, ouais.
C'est 19 ans, c'est-à-dire qu'il y a donc 700 millions d'Africains qui ont moins de 19 ans et 700 millions qui ont plus de 19 ans. Ouais. C'est ça la racine et c'est ça le moteur du changement qui est incontournable. On ne résiste pas à 700 millions de jeunes qui ont soif d'indépendance, qui sont aujourd'hui formés, qui savent lire, écrire, etc. Bon, ça, c'est pas possible. Ça aura lieu nécessairement. On verra comment et dans quelles conditions. On verra aussi que tous ceux qui veulent s'emparer des richesses africaines auront de la difficulté à le faire. C'est en cours. Ça fait partie de ce qui se passera cette année et les années suivantes. J'insiste pas, on y reviendra abondamment. Mais c'était pour donner la signification de l'implantation donc, du Mossad de Israël et des États-Unis sur le continent africain sous la direction politique, stratégique d'Israël. C'est là qu'est le vrai basculement qui a eu lieu. C'est la stratégie de Trump, elle est dictée, élaborée par Netanyahou. parce qu'il n'en a plus lui-même, il n'a pas les capacités, et on voit personne dans son ouvrage qui ait la capacité d'élaborer une politique. Alors, il y a bien eu un fameux document d'il y a 15 jours, 3 semaines, ou de mi-décembre, donnant la nouvelle ligne stratégique des États-Unis. On y reviendra à propos du Venezuela. Mais je voulais faire ce rappel de ce qui s'est passé donc avant l'affaire vénézuélienne, si j'ose résumer ainsi la situation. Avant l'affaire vénézuélienne, il s'est passé la tentative d'assassinat de Vladimir Poutine et deuxièmement la prise de possession d'une partie du territoire africain par Israël. Alors ça ne se passe pas tout seul, puisque à juste titre, la Somalie a refusé cette prise de possession. L'Union africaine, pareil, elle ne pouvait pas faire moins.
Certains pays arabes aussi.
Voilà, l'Union africaine aussi. L'ONU, bien entendu, ne peut pas accepter, puisque ça a été dit, c'est un pays souverain, reconnu, etc., que le Somaliland n'a jamais été reconnu par quiconque, bien qu'apparemment il fonctionnait. Il y avait un budget, des ministres et tout, alors c'était assez particulier. C'était un régime qui est... en tant que tel, tout seul, est relativement présentable, ouais. Mais qui, en fait, n'est reconnu par personne, puisqu'il veut s'installer sur les dépouilles d'un État qui, lui, est souverain et qui continue à être. Alors, État auquel les États-Unis ont réservé une partie de leur bombardement depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Je signale à ce propos que Trump, en un an, a plus bombardé partout dans le monde que Biden pendant 4 ans. C'est-à-dire, il a bombardé tout le temps. C'est ça qui va. Alors, je ne fais pas la liste des pays, il a bombardé partout où il en avait envie. Donc, arrêtons sur la paix, le prix Nobel de la paix. C'est une farce, sinistre farce, mais ça ne mérite plus qu'on en parle. Et on en arrive donc, je regarde là, on en arrive à notre affaire vénézuélienne qui apparemment occupe depuis donc le 3, depuis simplement 3 jours, je le rappelle, la totalité des médias, non seulement des médias, mais la totalité, je pense, de tous les états-majors politiques dans tous les pays du monde. Car il s'est passé là un événement d'une extrême gravité. Extrêmement grave. L'enlèvement d'un chef d'État, en soi, est déjà, bon, contraire à toutes les règles existantes, c'est du brigandage, c'est du... moi, j'appelle ça la voyoucratie, c'est des voyous qui font comme s'ils étaient libres, qu'il n'y avait pas de gendarmes, qu'il n'y avait pas de police, etc. Je fais ce que je veux, j'enlève qui je veux, je tue qui je veux, il n'y a plus de droit. C'est ça l'idée simpliste, le droit n'existe plus, droit international, droit national, droit humanitaire, tout ça... Faisons table rase de ces vieux oripeaux d'un passé humanitaire et humaniste. Faisons table rase de tout ça. Il n'y a plus de droit. Il n'y a que la force brute. Ça, c'est du Netanyahou tout pur. Souvenons-nous de l'accueil fait par Israël au jugement de la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice qui dit, dans un arrêt, c'est une colonisation. Israël fait comme s'il n'avait pas entendu. Deuxième arrêt, c'est un début de génocide et qu'il faudrait arrêter. Israël n'entend pas, c'est-à-dire Israël n'entend pas le droit. C'est clair. Bon. Et donc les États-Unis sont effectivement sur la même ligne. On n'entend plus le droit, c'est fini. Et ce qu'il pouvait y avoir de réticence, de politesse, de... On est prudent, on fait attention, on ne fait pas d'excès de langage et tout, a disparu puisque Trump ne fonctionne qu'avec des excès de langage. Il est incapable d'avoir un langage maîtrisé. Il a une espèce de langage minimaliste avec « il est gentil, je ne l'aime pas, je tape dessus », etc. Bon, c'est un langage, on le sait, on l'a dit déjà, vocabulaire d'un garçon de 12 ans et idéologie pas encore moins. Bon. Ça, on le sait, c'est classique. Donc, on en arrive à notre affaire vénézuélienne. Et il faut remonter avant les événements de la nuit du 2 au 3 janvier. Pourquoi ? Parce que cet événement de la nuit du 2 au 3 janvier est la suite de toute une série d'autres. Il faut savoir que le Venezuela a longtemps été un ami des États-Unis. Alors je mets ami voilà, avec tout ce qu'il peut y avoir dessous. C'est-à-dire qu'il faut savoir et le rappeler, ce qui est moins su que par rapport au Moyen-Orient, c'est qu'il y a du pétrole exploité au Venezuela depuis 1902.
Ah bon ?
C'est un des premiers pays du monde, après donc l'Azerbaïdjan, enfin l'Azerbaïdjan, oui, Bakou, et après les premiers forages aux États-Unis, c'est un des premiers pays du monde où on exploite du pétrole. Bon. Ça, c'est, ouais. Ça. Bon. Et donc, effectivement, ça a toujours été très intéressant pour les États-Unis, puisqu'ils avaient à portée de bateau, il y a juste le golfe du Mexique à traverser, une source très importante de pétrole. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que c'est devenu la première ressource mondiale, enfin la première réserve mondiale de pétrole, était connue avant qu'on l'ait absolument inventorié, enfin que les géologues aient fait tout leur travail, mais c'était déjà un très très bon endroit. Et il faut savoir que depuis 1902, les compagnies pétrolières des États-Unis avaient l'habitude de se fournir en pétrole du Venezuela. Bien qu'il y eût sur le territoire de la République états-unienne aussi du pétrole. Mais c'était leur dépendance, beaucoup plus que l'Arabie saoudite. Alors j'insiste là-dessus parce qu'on a souvent dit, en souvenir de la visite de Franklin Roosevelt dans le Golfe en 1944, je crois, que l'Arabie saoudite ne travaillait que pour les États-Unis. Mais ça, c'était une nouveauté. En fait, pour le Venezuela, c'était normal. Le Venezuela a toujours, depuis 1902, été le fournisseur de pétrole des États-Unis, ou d'une partie du pétrole qui, vous le savez, c'est vrai, et ça le reste, ça a toujours été, est le premier consommateur de pétrole du monde par tête d'habitant. Donc c'est quelqu'un qui pompe sur les ressources globales de l'humanité beaucoup plus que les autres. Donc c'est un prédateur officiel et total. Voilà ce qui est situé. Donc les gouvernements vénézuéliens qui ont suivi, bon, étaient des gouvernements qui laissaient faire. Finalement, ils avaient une petite partie de la recette, pas trop, mais c'était bien. Ils avaient un peu d'argent, ils le distribuaient autour d'eux. Donc c'était un régime clientéliste et tout. Ça allait comme ça. Et puis on ne demandait pas plus. Et les États-Unis étaient contents. Ils avaient une ressource très commode, au point qu'ils étaient tellement tranquilles que plutôt que de faire raffiner le pétrole vénézuélien au Venezuela, ils avaient installé sur le territoire des États-Unis, en Texas, en Louisiane en particulier, des raffineries spécialement équipées pour raffiner le pétrole vénézuélien. C'est-à-dire qu'en fait, on mélangeait, et comme d'habitude, dans le rapport colonial, la matière première était chez le colonisé, et l'utilisation industrielle et les bénéfices de l'industrie et la vente des produits finaux allaient chez le colonisateur. Un schéma élémentaire qu'on connaît, qu'on pourrait apprendre à l'école si on voulait vraiment le faire. Bon. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Et puis un jour, c'était pas il n'y a pas si longtemps, c'était en 2002, il arrive, à la suite d'un premier coup d'État qu'il avait raté et qui lui avait valu la prison, un jeune officier vénézuélien qui s'appelait Hugo Chavez. Hugo Chavez s'est rendu compte, et il dit qu'en particulier le séjour en prison, il s'était bien rendu compte que les États-Unis mettaient la main sur tous les trésors, que le peuple vénézuélien ne lui laissait rien, une petite monnaie de la pièce juste pour laisser partir son pétrole, et donc il disait il faut changer ça. Et il passe, je crois, 2-3 ans en prison, là il se met à beaucoup réfléchir, il a de très très bonnes lectures, il lit Lénine, il lit Marx, etc. Et à ce moment-là, il décide de faire un coup d'État qui réussit, c'est-à-dire il prend le pouvoir en 2002. Et il prend le pouvoir sur la base, nous allons utiliser nos richesses à notre propre profit. C'est-à-dire, on va essayer d'avoir une économie développée. Alors, ça se passe très très mal.
Le pétrole, il y a d'autres richesses.
Et il y a d'autres richesses, voilà. Alors, le pétrole, c'était le point de départ, mais en fait, il savait aussi, et c'est avéré depuis, qu'il y a d'énormes richesses en bauxite, en nickel, en tantale. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et une énorme ressource d'eau douce. Vous savez que l'eau douce est un bien rare, de plus en plus rare sur la planète, et qu'avec l'Orénoque, une partie des sources amazoniennes, on a des stocks d'eau douce considérables sur le sol vénézuélien. Donc, c'est vraiment le trésor, et effectivement, on imagine bien que l'impérialisme ne veut pas le laisser partir. Or, ce que faisait Chavez, c'était non pas dire « je vous mets à la porte », mais « je veux ma part, c'est chez moi, et je vais exploiter moi-même mes affaires bon. ». Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à prendre des mesures en faveur de la nationalisation du pétrole. Ben voilà, ça n'empêche pas les compagnies étrangères de travailler, mais je veux avoir des actions, je veux avoir une partie des bénéfices. Alors évidemment, c'est très très mal accepté, et tout va être fait pour que M. Chavez tombe. Alors ça prendra un certain temps, et il y aura des tentatives de coup d'État, il y aura une tentative même qui réussira, c'est-à-dire qu'ils réussiront à enlever Hugo Chavez, mais qui réussira à échapper aux organisateurs du putsch et reviendra 2 jours après. Donc tout ça fait partie, on a aujourd'hui que la suite de ce premier événement-là. Et on en arrive au point où Hugo Chavez meurt d'un cancer foudroyant, qui, d'après beaucoup d'observations, n'a pu être qu'un cancer suscité, organisé, c'est-à-dire organisé par un traitement dans une clinique qui aurait permis que ce cancer se développe. Bon, donc, monsieur Moi, j'ose le dire, disons-le, je ne suis pas le seul à le dire, M. Chavez a été assassiné chirurgicalement par les États-Unis d'Amérique. Et il fallait, bien sûr, pour suivre l'ordre constitutionnel, élire un nouveau chef d'État. Ce qui fut fait, donc, on est en 2013. Et il arrive donc à la tête du Venezuela, un monsieur qui est déjà ministre des Affaires étrangères, qui connaît, qui est un chaviste de la première heure, dont le nom est Nicolas Maduro, vous le savez. Il arrive à la tête du pays en 2013. Et à partir de ce moment-là, ceux qui avaient déjà voulu que Chavez disparaisse vont s'employer à faire en sorte que Maduro disparaisse aussi. Ils vont y prendre un certain temps, mais on va susciter une opposition qui va arriver, alors qui va démarrer en 14-15, et puis en 2016, au moment où Trump, pour la première fois, arrive à la Maison-Blanche, la tension monte d'un cran, et on voit les difficultés qui commencent à s'accumuler sur le sol vénézuélien, au point qu'on en arrive à un embargo extrêmement violent en 2017. Alors, embargo extrêmement violent, ça veut dire que dans une économie vénézuélienne, ou qui est une économie de pays rentier, car la dépendance au pétrole était telle que la recette pétrolière suffisait à acheter tout ce dont on avait besoin, que ce soit de la nourriture, des vêtements, des médicaments, des équipements, des pièces détachées pour les voitures, tout venait de l'extérieur. Dès l'instant où vos recettes extérieures diminuent, il n'y a plus rien dans les magasins. C'est ça le boycott. Et donc, plusieurs millions de Vénézuéliens s'enfuient. Il n'y a plus rien dans les magasins. Il est mort la première année, 80 000 personnes mortes de faim au Venezuela la première année. 80 000 personnes mortes de faim au Venezuela la première année de l'embargo. C'est ça que ça veut dire. Alors après, on dit, ils n'aimaient pas Maduro. Non, ils voulaient manger. Et on leur interdisait de manger. Qu'est-ce qu'a fait Maduro et son équipe à partir de ce moment-là? Ils ont dit, puisqu'on nous interdit de manger, il faut que nous avons des terres, on n'est pas plus bête que les autres, on va cultiver. Aujourd'hui, et c'est pour ça que la riposte du Mossad des États-Unis est arrivée maintenant, aujourd'hui, le Venezuela est indépendant alimentairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne meurt pas, on ne peut pas mourir de faim au Venezuela. Alors, il y a moins de bouches à nourrir, il y en a qui sont partis, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a autonomie alimentaire, autosuffisance alimentaire du Venezuela. Ça, c'est la politique Maduro. Alors, ceux qui n'aiment pas ça, je leur laisse la joie de dire qu'ils n'aiment pas ça. Moi, quand un pays dit « je suis là d'abord pour nourrir mes habitants et pour qu'ils ne crèvent pas de faim », je ne vois pas quelle critique je serais autorisé à en faire. C'est la première donnée.
Le Venezuela est deux fois supérieur, je vais dire, ça fait au point de vue superficie, deux fois la France.
Voilà,
D'ailleurs, comme habitant, je crois qu'il doit avoir...
Ils sont à 25 millions pour l'instant. Voilà. Donc, il y a de la place. Alors, il y a des parties qui sont parties de la forêt amazonienne, vers de l'Orénoque et tout, peu habitables. Il y a des parties montagneuses, il y a des parties de plaine, il y a des parties de bord de mer. C'est un paysage complexe, mais ils avaient des terres à cultiver. Ils les ont cultivées eux-mêmes et ça marche.
Le plan technologique, Maduro a apporté...
Voilà. En
plus, d'ailleurs, le traitement du pétrole et tout, ça a commencé.
Alors, deuxième difficulté, la richesse du pétrole, elle restait là, c'est-à-dire il y avait du pétrole. Le problème, c'est que les installations qui avaient été mises en place par des sociétés étrangères, états-uniennes pour la majeure partie, avaient besoin à un moment donné de pièces détachées. Quelque chose qui casse, un tout petit morceau. Comme il y avait embargo, il n'y avait plus de pièces détachées. Donc ça veut dire qu'entre le début de l'embargo 2017 et aujourd'hui, la production de pétrole du Venezuela a diminué dans un rapport de 10 à 1. De 10 à 1. Ça veut dire que les recettes pétrolières ont diminué de 90%. C'est ça que ça veut dire. Donc effectivement, il fallait bien, les difficultés réelles étaient là, et il fallait donc commencer à créer une petite activité industrielle, fabriquer les outils pour le jardinage, des choses comme ça, élémentaires, en faisant ce qui n'avait jamais été fait, puisque l'héritage du pays rentier, c'est-à-dire je vends mon pétrole et j'achète tout, était clos. C'était plus possible de le faire à cause de l'embargo. C'est ça que l'équipe de Maduro était en train de faire. Et à mon sens, c'est ça qu'on veut lui interdire de continuer à faire, c'est-à-dire manifester une autonomie sans être dépendant uniquement de la rente pétrolière. Bien sûr, il pourra reprendre, un jour viendra où ils pourront reprendre les ventes de pétrole, remettre en état leurs installations, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils étaient capables de se défendre tout seuls et de nourrir au moins les 25 millions d'habitants qui étaient restés sur leur territoire et qui y croyaient. Alors pourquoi ils y croyaient? Non seulement parce qu'il y avait des légumes et des fruits dans les magasins, et qu'il y avait du poulet dans les magasins. Ça, c'était une première donnée élémentaire. Bon. Et puis parce qu'il y avait du travail. Et puis parce qu'il y avait aussi, ça n'a pas été assez dit, parce que tous les gens qui font la fine bouche, ah oui, Maduro ceci, Maduro cela, oui, c'est quand même dommage, l'installation, l'intervention des États-Unis, mais enfin Maduro, Maduro machin. Alors ça, ça ne tient pas debout, ça veut dire que c'est un refus de savoir. Le refus de savoir, c'est le refus de savoir ce que c'est que la démocratie participative à la Vénézuélienne. Qu'est-ce que c'est que la démocratie participative à la Vénézuélienne? Je vais expliquer. Il y a au Venezuela une constitution avec des régions, un État central, des régions, des départements et des communes. Bon, et à chaque niveau de décentralisation, il y a une élection qui donne le pouvoir à un maire, à un député, à un conseiller régional, etc. Ce qu'a ajouté la démocratie participative à la mode vénézuélienne, c'est ce qu'on appelle les communes. Qu'est-ce que c'est qu'une commune? Ben, une commune, hein, comme ça, alors, un petit écho de 1970 en France, hein, une commune, c'est un endroit où les citoyens d'une ville se réunissent et disent, et alors ils se réunissent très très régulièrement, voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse, on discute, alors il y a un tel problème pour je ne sais pas quoi, l'enlèvement des ordures, pour l'adduction d'eau ici dans telle et telle parcelle, etc. Et on élabore, nous, citoyens de la commune, qui est reconnue comme telle, il y en a 50 000 des communes. 50 000, ce n'est pas une expérimentation sur un ou deux cas. Il y a 50 000 communes populaires au Venezuela aujourd'hui. Chaque commune populaire se réunit, discute et propose une amélioration de la politique de la structure. Là, le conseil municipal, il reste là, il est élu. Mais la commune dit, voilà, nous, on pense qu'il faudrait aussi faire ça, ou plutôt que de faire ceci, plutôt faire cela, parce que c'est nous, ça. Citoyens, qui pensons qu'il vaut mieux mettre l'argent ici que là-bas. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que l'État valide le choix de la commune. Donc vous avez une assemblée de citoyens à la base qui dit, en fait, je conteste un peu la décision prise par les autorités locales, je propose un autre choix. C'est pas dire, je ne dis pas démission du conseil municipal, je dis non, là il faudrait plus insister sur, je ne sais pas, l'adduction d'eau, je disais, tout ce qu'on veut, et c'est nous qui avons proposé, et l'État central valide. C'est-à-dire l'État central valide la participation des citoyens à la base. Alors, les petits de chez nous, là, qui disent « Oh, Maduro ceci, Maduro cela et tout », est-ce que vous savez ce que c'est que la démocratie participative? Est-ce que vous savez ce que c'est que les communes vénézuéliennes? Vous n'en savez rien. Alors, renseignez-vous. Hein, je ne veux pas faire la propagande madourienne, mais en fait, c'est ça la réalité. L'autre réalité, qui est aussi très très intéressante, c'est ce qu'on appelle les référendums révocatoires. Ça fait aussi partie de l'acquis du chavisme. C'est-à-dire, le chavisme dit « Bon, on élit tous les 5 ans ou tous les 4 ans, un président de la République et puis un président de la région, et puis ci et puis ça. » Et puis, il peut s'avérer que après l'affichage du programme qui sert à faire la campagne électorale, l'élu ou son équipe n'est pas tout à fait à la hauteur de ses promesses, voire les oublie totalement, hein, c'est-à-dire on s'assoit dessus, pour être simple. Et donc, à ce moment-là, les citoyens, dans une proportion relativement satisfaisante, disent « Nous, on considère que ce monsieur nous a menti. » Ce monsieur nous a menti. Il a annoncé bons et merveilles. Il n'a rien fait. Il a même peut-être fait le contraire. Donc on va demander la tenue d'un référendum révocatoire en cours de mandat. Il en a pour 5 ans. Au bout de 2 ans, on considère, donc une fraction importante, c'est de l'ordre de 20-25% des électeurs, que ce monsieur n'a pas fait son travail et qu'il nous a roulé dans la farine. Donc on refait un référendum pour voir si on le garde pour qu'il continue son mandat ou si on en change. Imaginez ça aujourd'hui dans la République française. Rêvez de secondes. Je vous donne ce rêve pour toute l'année 2026. Imaginez que nous puissions avoir au mois de mai un référendum révocatoire de M. Emmanuel Macron. Tout porte à croire que M. Emmanuel Macron serait révoqué. vu la situation dans les sondages. Bon, évidemment, on n'en parle pas. Et à la place, l'ignoble Sarkozy nous a fabriqué une espèce de référendum d'initiative citoyenne qui n'a rien à voir avec ça, puisqu'il faut que ce soit le Parlement qui soit d'accord, puis après, une certaine proportion d'élus. Enfin, il a utilisé l'idée de reconsulter le peuple en cours de mandat et il l'a totalement perverti. Mais ça, travail à la Sarkozy classique, je ne m'étends pas tellement là-dessus. Bon, donc, il y a ça aussi. Or, il se trouve que Chavez, qui avait inventé le référendum révocatoire, se l'est vu opposer, c'est-à-dire qu'il y a eu suffisamment d'opposants sur le sol vénézuélien pour qu'on organise et que Chavez organise lui-même un référendum révocatoire. Et il a gagné. Et il a gagné. Oui. Bon. Donc ça voulait dire que ceux qui étaient mécontents, ils existaient, bien entendu. Ils se sont retrouvés dans une certaine proportion du vote, mais ils ont été battus. C'est ça. Alors, quand on oublie ça, effectivement, on peut dire de loin, oh, le référendum, Maduro, machin et tout. Bon, on peut faire la fine bouche. Moi, je dis, et je le dis fort, on n'a pas le droit de faire la fine bouche quand on a sous les yeux une tentative de dépasser les difficultés de nos systèmes constitutionnels et de leur affaiblissement. Et de la faible représentation, de faible prise en compte des revendications démocratiques. C'est pour ça que je disais, si aujourd'hui il y avait un référendum pour révoquer Macron, je ne vois pas comment il pourrait gagner, vu la taille de son parti politique qui est pratiquement réduit à zéro, sa majorité parlementaire réduite à presque rien, et son soutien dans la population réduit à pas grand-chose non plus. Bon, ça n'aurait pas duré. Et même, ça aurait pu se finir. Imaginons qu'il y ait eu, dès 2023, un référendum révocatoire. Il était déjà battu. Ça nous éviterait quand même, au passage, d'avoir le budget catastrophique qu'on va nous mettre sous forme de comprimés à avaler le matin, donc dans les semaines qui viennent, puisque le Parlement n'a pas voté le budget. Donc il va bien falloir qu'il y ait un budget pour que la République et que l'État continuent à fonctionner. Donc on va nous réinsuffler une dose du budget de l'année dernière, c'est-à-dire tout le programme de Macron-Le Cornu va être appliqué et nous n'aurons rien à dire. C'est ça aussi la différence. Il n'y aura pas de commune, il n'y aura pas de participation des élus, il n'y aura pas de réunion à la base pour dire ça nous va, ça ne nous va pas. Situons bien ça pour ce que c'est. Voilà, ceci était pour rappeler le cadre dans lequel s'opère cette opération donc de la nuit du 2 au 3 janvier, qui est une ultime tentative pour extraire le chavisme des profondeurs de la société vénézuélienne où il est bien, bien enraciné. Et je veux dire, en plus, il y avait urgence, puisqu'il pensait que cet exemple risquait de faire tâche et qu'il fallait surtout pas, parce que, exemple faire tâche, et ça se voit dans les réactions de différents mouvements d'opinion et tout, ça veut dire, en fait, trouver une voie autonome et nouvelle vers le socialisme, hein, le partage de la richesse naturelle et la participation des habitants à la base à la décision, qui ne soit pas une espèce de repoussoir comme on a fait à l'époque de l'URSS, un repoussoir. Alors, ça a été largement fabriqué, mais on ne va pas consacrer l'émission à ça. Simplement, il faut savoir que cette voie donc, du socialisme participatif était une voie très très intéressante qui dérange fondamentalement les intérêts du grand capital partout dans le monde. Et donc, il fallait surtout pas que l'exemple vénézuélien soit suivi par d'autres. Et donc, il y avait, à la limite, je pense qu'il y avait, de leur point de vue, urgence. Il fallait pas que ça réussisse. Il fallait pas qu'un État puisse assurer à sa population qu'elle ait à manger, à boire tous les jours. Il fallait pas qu'il puisse utiliser ses ressources naturelles pour en tirer des avantages matériels et tout. Il fallait pas que ça se développe. Donc, tuer ça, j'allais dire, presque dans l'œuf. Pas tout à fait, puisqu'on verra, on va parler tout à l'heure du débat hier au Conseil de sécurité, on verra que tout n'est pas si simple. Donc, il se passe ce coup d'État. Alors, vous savez en détail, vous savez ce qu'on peut voir, sur les écrans. Oui. Je m'arrête un instant sur cette question de qu'est-ce qu'on peut voir sur les écrans. Il faut bien savoir, vous avez tous compris, que l'intelligence artificielle, ça existe. Et là, alors tout le monde frémit, palpite, oh que c'est bien l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, j'insiste, ça permet par exemple, je pense à un monsieur qui est un journaliste, un géopoliticien qui est très connu dans le monde entier, qui s'appelle Pepe Escobar, qui est brésilien d'origine, mais qui circule beaucoup, et qui a beaucoup d'interventions très très pertinentes. Et monsieur Pepe Escobar, je l'ai pu le voir hier tenir, soi-disant depuis Shanghai, un discours dans un portugais parfait qu'il ne parle pas. C'est-à-dire que c'était une émission fabriquée par l'intelligence artificielle pour faire croire, d'une part, qu'il était à Shanghai et d'autre part, qu'il parlait un portugais très, très classique et très, très... Bon, Ça, c'est tous les jours que vous risquez d'avoir ça sur vos écrans. Faites attention quand vous voyez des photos d'un personnage. Je pense, par exemple, assez souvent, on voit le lieutenant Ibrahim Traoré en train de parler. En fait, le discours qui est tenu n'est pas celui qu'il a tenu, lui. C'est le discours de l'intelligence artificielle qu'on a collé sur son image. Donc, le travail qu'on essaye de faire ici, et je témoigne devant les auditeurs, c'est-à-dire ça devient très très difficile, c'est à chaque instant qu'il faut dire, mais ça, ça c'est une fabrication ou ça c'est vraiment lui qui parle. Donc il faut connaître les voix. Alors il faut savoir qu'en plus, les voix se reconstituent. Les voix se reconstituent. Vous pouvez, à partir d'échantillons de voix d'un personnage, en prenant les mots tels qu'il les a prononcés telle date, recoller les mots les uns après les autres pour faire une phrase, et c'est soi-disant lui qui l'a dit. Il n'a rien dit de semblable. Mais vous avez utilisé sa voix, ses mots et le ton qu'il utilise dans sa parole habituelle. Donc le travail de journalisme aujourd'hui, on le fait ici à Radio Galère d'une façon très très modeste, devient un travail qui mérite énormément de méfiance, énormément d'attention pour dire non, ça c'est une fabrication, ça ne tient pas debout, ça tient debout parce qu'en plus je connais la source, je connais ce site qui travaille depuis plusieurs années, donc ils sont fiables, ils ont une ligne politique connue, c'est régulé, ça va. Partout ailleurs, attention, le terrain est totalement miné.
Oui, je voulais dire à propos justement d'encore de Chavez, j'avais vu en Syrie, Chavez avait reçu Bachar al-Assad et sa femme. Et je crois que Chavez faisait une émission tous les matins à la télé. Il parlait, il disait ce qu'il allait faire. Et il avait reçu Bachar al-Assad et sa femme en disant, vous savez, Bachar, c'est notre frère. Voilà. Je tiens à le dire.
Voilà, mais voilà. Et donc, voilà, ce qui s'appliquait à l'un allait s'appliquer à l'autre. C'était effectivement, voilà. Alors, je rappelle, puisqu'on évoque la Syrie, ça, c'est le moment de le faire, puisque tu en donnes l'occasion. C'est-à-dire, la Syrie avait un choix très, très particulier. C'était de dire, je ne dépends pas du Fonds monétaire international. Je n'ai jamais demandé un dollar à quiconque. Je ne dépends pas de la Banque mondiale. J'ai du pétrole, mais je l'exploite juste pour satisfaire mes besoins propres. Je ne suis pas un vendeur de pétrole. Et j'ai par ailleurs une économie diversifiée, en particulier autour d'Alep et tout, où je sais fabriquer beaucoup, beaucoup de choses. Donc je suis un pays indépendant et qui ne veut pas se lier à l'impérialisme du dollar et des États-Unis.
Et ça lui a coûté cher.
Et ça lui a coûté extrêmement cher. Bon,
hein. Et ça continue à lui coûter
cher. Et ça continue, puis ça continue à coûter cher,
Maduro,
y compris.
Hein. Hein,
comme Maduro.
J'ai dit, c'est le même. Finalement, c'est le même principe.
Eh ben,
c'est le même principe. Épuiser un pays, voilà, pour, jusqu'à ce que ça tombe. Et effectivement, on peut considérer que la Syrie est morte d'épuisement. De gens qui n'avaient plus à manger, qui étaient mal payés, qui étaient. Voilà, mais ça faisait 30 ans que ça durait. Puisque les premières mesures de boycott de l'économie syrienne datent de George Bush Jr., donc de 2004. Donc on prend le temps, mais quand on veut étrangler, qu'on a tous les moyens, on étrangle. Bon. C'est ce qui est en train d'essayer de se passer au Venezuela. Donc on en revient à cette journée folle, cette nuit folle plutôt du 2 au 3. Où, alors déjà, première précaution, qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce qui s'est passé ? Alors on le sait, comme n'importe quel d'entre vous qui nous écoute le fait, il va sur des nouvelles, il va sur des sites, il voit des youtubeurs, il voit des sites officiels, il voit des communiqués lus sur des grandes chaînes, des communiqués des puissances, des gouvernements, des ministres, etc. Il essaye de se faire une idée. Mais ce n'est pas si facile. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir comme élément vrai ? Alors élément vrai, on a vu effectivement des hélicoptères dans le ciel de Caracas. Bon, ça... Alors, on peut admettre que c'est vrai, puisqu'on sait qu'en plus que ces hélicoptères ont débarqué des soldats des États-Unis et que ces soldats des États-Unis se sont livrés à un certain nombre d'actions dans des locaux publics et dans des locaux militaires et dans des surtout principalement. On sait que parmi les premières victimes de ces soldats descendus de ces hélicoptères, il y a 32 Cubains. 32 Cubains. Pourquoi il y avait 32 Cubains ? Et parce que la protection rapprochée de Nicolas Maduro était assurée par des Cubains. Pourquoi faire ça ? D'une part, parce que ça montrait la confiance absolue de Nicolas Maduro dans les Cubains, et ça évitait toute tentative de corruption. Un soldat cubain qui était envoyé comme garde du corps de Maduro, il n'allait pas au coin de la rue essayer de se faire acheter par les services de renseignement états-uniens ou israéliens. Bon, c'était... bon, ils sont tous morts, ils sont 32 morts. Bon. Plus d'autres. Alors, il y a des endroits où, effectivement, les soldats des États-Unis sont débarqués dans des installations
donc,
militaires.
Donc, il y a eu un bombardement, puis il y a eu aussi un débarquement et un kidnapping. Voilà. C'est trois trucs.
Voilà, bombardement. Alors, il y a eu des soldats des États-Unis qui sont arrivés sur des installations militaires. Les soldats s'y attendaient, les soldats vénézuéliens qui ne s'y attendaient probablement pas, mais se sont battus. Et j'ai vu des vidéos de soldats blessés qui disaient ben, ils sont arrivés par surprise, comme ça, on était en pleine nuit, on s'est défendu. Là, on a gagné. À d'autres endroits, c'est eux qui ont gagné. Ça a été un peu le combat de nègres dans un tunnel, si j'ose dire. Hein. C'était impréparé. Autre chose assez étrange, mais qui est confirmée par tout ce qu'on a pu lire, il n'y a pas eu de mise en œuvre de la défense antiaérienne vénézuélienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il faut rappeler que depuis le début décembre, en gros, parce que la tension a été montée quand même très très haut, on savait que la Russie avait livré des équipements antiaériens de dernière génération, ce qu'elle avait de mieux en la matière. C'est-à-dire tout à fait du matériel en mesure de décourager toute attaque aérienne venue de l'extérieur. Bon. Cet équipement n'a pas fonctionné.
Et puis, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi dans le port du côté vénézuélien, oui, des navires russes ?
Ça a été dit aussi.
Oui.
Ça a été dit aussi.
Ouais,
ça a été
on
dit.
Sait
alors,
pas.
Là, on ne sait pas. Alors, c'est là qu'il faut rester à la limite,
oui,
de nos
prudent
capacités de compréhension. C'est-à-dire que le système de défense ne fonctionnait pas cette nuit-là. Comment ça se fait ? Alors, il y a deux possibilités. Soit un système de hackage, hein, donc de mise de neutralisation par des voies informatiques du système de défense, parce que le système de défense, ça passe par des canaux d'information qui partent de l'état-major et qui vont à toutes les unités militaires. Bon, si vous arrivez à hacker, à interrompre le fonctionnement de ce réseau, l'armée vénézuélienne ne répond pas. Il n'y a plus personne au bout du fil. Bon, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, je le mets sur la table, ça peut être aussi la trahison. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
50 millions.
Voilà, j'allais venir, tu fais bien, j'allais venir aux 50 millions de dollars. Il faut rappeler que la prime à la chasse de Maduro était élevée, puisqu'il s'agissait de 50 millions de dollars. C'était la prime la plus élevée de toute l'histoire,
ouais,
des États-Unis.
Ouais.
C'était deux fois Ben Laden. Hein. Bon, c'était beaucoup, beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a eu des gens pour qui 50 millions de dollars, ça les a fait délirer, tourner la... C'est pas impossible, je l'exclus pas. Il n'y a pas, que des saints sur la planète, personne n'est saint. Hein. Mais il y a des gens qui peuvent se laisser prendre à 50 millions de dollars. Hein.
Bon. Non, mais je sais pas, on a l'impression qu'il n'y a pas aucune sécurité au Venezuela. Il y a
non.
Pourtant une armée assez
ben,
puissante.
Voilà, non, mais là, on a l'impression qu'elle était... Elle était,
on a l'impression, bon, elle est venue elle prendre était, quelqu'un, partir,
elle
prendre...
Était, elle était shuntée, manifestement. Il n'y avait pas de système de défense ce jour-là. Donc, lui, les quelques soldats vénézuéliens que j'ai vus, oui, qui ont été blessés, disent, bon, on a dû débarquer des soldats américains, mais on n'était pas prévenus. On a pris nos armes, on a tiré. Il y en a qui en sont sortis, peut-être pas d'autres, mais c'est tout. Donc, il n'y avait plus de commandement. Le commandement ne pouvait pas être obéi. Alors, je rappelle quand même, ça a été dit à un moment donné, qu'au moment de la chute de Bachar el-Assad, il a été dit, je le rappelle, il a été dit qu'il y avait une fausse voix fabriquée avec la voix du chef d'état-major de l'armée syrienne qui avait été diffusée dans les unités en disant « on dépose les armes ».
Oui, il y avait une tromperie aussi.
Voilà,
oui.
Tromperie. Ça aussi, voilà. Ça fait partie de l'intelligence artificielle. Il est aujourd'hui possible de reconstituer la voix d'un chef d'état-major, d'envoyer un message qui est exactement le contraire de celui qu'il aurait dû envoyer s'il avait fait son rôle, et qui est écouté par tous ses subordonnés.
Bon, moi, je suis sûr et certain, voilà, c'est l'intelligence artificielle, Bernard. Oui. Parce qu'aussitôt, Israël a attaqué, là,
mais bien
a détruit toute la défense aérienne en Syrie. Les laboratoires, tout ce qui est militaire.
Voilà. Alors, donc, voyons bien, donc, la limite de notre connaissance, il faudrait que j'insiste là-dessus, on essaye de faire du journalisme dans des conditions qui deviennent de plus en plus difficiles.
Ouais.
Difficiles parce qu'on risque sans arrêt d'être trompé sur la marchandise. Alors, qui a dit quoi ? Est-ce que c'est vraiment lui ? Est-ce que c'est pas une fabrication ? Donc, on est rentré dans une période, et c'est pour ça que je citais Pepe Escobar, parce qu'il a fait un papier, mais c'était le 31, donc avant l'affaire vénézuélienne, enfin l'attaque du Venezuela, où il a dit « la citoyenneté est en train d'être écrasée par l'intelligence artificielle ». C'est-à-dire l'expression de gens qui discutent, qui disent « moi je sais ci, moi je sais ça », qui recoupent, qui élaborent, etc. C'est en train d'être écrasé. Chacun se trouve devant son écran, soumis à une espèce de lavage de cerveau, alors qui, dans la plupart des cas, est néfaste. Et de temps en temps, au milieu de toutes ces ordures fabriquées, il y a de temps en temps une pépite de vérité. Mais le travail devient très très difficile. Il y a des jours où je me dis, mais ça devient, je le dis aux auditeurs, aux auditrices, est-ce que j'ai encore le droit de dire quelque chose à la radio? Je l'ai élaboré comment? Est-ce que j'ai été trompé? Par qui? Donc ça pose des limites à l'honnêteté intellectuelle de chacun d'entre nous. Nous ne savons pas comment notre cerveau est alimenté par toute une série de sources qui elles savent exactement où elles veulent aller. Donc les données sont là, l'armée vénézuélienne ne réagit pas, l'enlèvement a lieu. Alors là, il y a aussi deux hypothèses. Effectivement, l'enlèvement est effectué par des traîtres vénézuéliens, possible. Possible. Après, donc, la liquidation des gardes du corps cubain.
Non, mais ça, c'est sûr qu'il y a eu quand même...
Trahison.
Oui,
ouais. Probablement. Voilà, parce que 50 millions de dollars.
50 millions.
Voilà, 50 millions de dollars.
C'est ça.
En plus, ça va dans ce sens, parce que 50 millions de dollars, ça ne peut aller qu'à un traître, parce que ce n'est pas le soldat américain qui va toucher les 50 millions de dollars. Si on lui dit enlève Maduro, lui, il fait son travail, il n'aura pas 50 millions de dollars d'augmentation.
Maria, comment elle s'appelle, qui a reçu le prix Nobel, c'est possible.
Oui, ce n'est pas elle non plus. Voilà.
Non, mais c'est...
Oui, tout à fait. Il y avait, des traîtres, il y en avait. Des traîtres, il y en avait sur place. Il y avait une tentative, il y avait l'épisode, je n'ai pas rappelé l'épisode Guaido, où 50 pays du monde ont reconnu comme chef de l'État vénézuélien un monsieur qui n'était pas élu chef de l'État vénézuélien, qui s'appelait Juan Guaido, la France en tête. Bon, ça aussi, ça fait partie de la préparation au renversement de Maduro. Tout ça est vrai. Donc, les limites de ce qu'on peut dire sont là. Il y a bien eu, l'opération, elle a eu lieu. Du point de vue de Trump, c'est un succès. C'est-à-dire, il voulait absolument affiché une victoire. Il en voulait à Maduro qui ne se pliait pas à ses conditions.
C'est une honte de l'humanité, moi, je dis. Une honte.
Tout à fait.
D'aller dans un pays, c'est comme si on va chez toi.
Mais pareil.
On te prend et on occupe la maison.
Mais c'est tout, voilà.
Tu n'as pas le droit de rien dire, malgré que tu as passé chez le notaire, que tu as fait tout.
Ah non, ça
tout ce qui est nécessaire, voilà. Pour que ça soit ta maison.
La disparition du droit en tant que défense de tous les individus, toutes les collectivités, toutes les communautés organisées, ça fait partie de cette politique de la terre brûlée. Il n'y a plus rien. Il n'y a que la force brute. Et là, Trump est parfaitement adapté à la situation.
Bernard, si tu regardes bien.
Oui.
Premièrement, ils ont attaqué le Japon. Deux bombes nucléaires. Deuxièmement, la Corée du Nord. L'Afghanistan. L'Irak. Le général Soleimani, qu'ils ont envoyé une fusée sur sa voiture. C'est Trump, oui. Trump. Ouais, maintenant, c'est Trump. Et puis, il faut voir. Mais ils font que du mal. Ils détruisent le monde. Ces gens, ils détruisent le monde, moi, je dis. Hein.
Alors, on en est
il faut faire attention. Vrai. Il faut...
Et Trump faut est une marionnette dans tout ça.
Ouais.
Trump n'est vraiment qu'une marionnette.
Oui, bien sûr. Oui, on arrache.
Mais après, comme il a dit Bernard, Mossad, tout un système qui dirige actuellement. Le sionisme, moi, j'ai dit, c'est eux qui dirigent le monde actuellement.
Bilderberg.
Moi, j'ai l'impression.
Et Bilderberg.
Mais c'est les mêmes, parce que les Pays-Bas, bon, on sait de quel côté sont les Pays-Bas, quoi. Alors, on sait que Bilderberg, tu évoques le souvenir du groupe de Bilderberg. Je rappelle, le groupe de Bilderberg est mis au point par les États-Unis et l'Europe de l'époque, en 1948, avec à la tête de l'opération le prince Bernard de Lippe, l'époux de la reine Juliana, qui est un officier pro-nazi. Bon, c'est le mari de la reine des Pays-Bas, elle n'a rien usurpé. Mais lui, c'est un officier pro-nazi, et c'est un officier pro-nazi qui dit maintenant, le destin de l'Europe, il est entre les mains de Washington.
Bon, on est corrompu, vraiment.
Et corrompu.
Pourquoi on n'a qu'à faire comme comme Trump, prendre Zelensky, hop, prendre la Chine, le président chinois. Voilà. Non, mais
essayons de la
jungle.
Mais c'est ça qu'ils veulent. Parce que dans la jungle, c'est le plus gros qui est le plus fort.
C'est le plus féroce, c'est le plus. Bon, oui.
Donc voilà, en gros, ce qui se passe à Caracas, ça se passe à un niveau plus petit dans d'autres villes du Venezuela. Et puis, on en arrive donc à l'enlèvement. Alors, j'en étais à dire, est-ce que c'est des Vénézuéliens qui l'ont confié aux États-Unis ou est-ce que c'est les États-Unis eux-mêmes qui, après avoir liquidé les 32 Cubains, les ont pris? On ne sait pas, mais le résultat est le même. Ils se trouvent placés dans un hélicoptère sur le l'aéroport de Caracas. Il va ensuite sur un navire de guerre et de là, il est parti aux États-Unis où on l'a vu. Alors là, débauche d'images. Si vous voulez voir quelqu'un d'humilié, un chef d'État en tenue de prisonnier avec les menottes et tout, vous en aurez toute votre... Vous pouvez passer des heures et des heures à regarder M. Maduro prisonnier. Oui, à ça, ben oui, voilà. Et maintenant, il est en tenue de prisonnier. En
pyjama, je ne sais pas.
Oui, une espèce de survêtement, voilà. Bon. Le procès a commencé dès hier.
Mais pourquoi sa femme ? C'est ça que j'ai...
Ah ben...
Comme
bon,
ça.
Ben elle était dans le lien avec lui. Donc. Non, elle était parlementaire, quand même. Elle était députée chaviste. Donc, elle est... Voilà. Alors, ça suffit à dire. Non. Ils ont aussi inculpé leur fils, qu'ils n'ont pas attrapé. Mais Nicolasito, le fils de ces deux, il est aussi inculpé. Bon, ils ne l'ont pas attrapé. Mais il est inculpé. Comme le ministre de la Défense aussi. Bon, ben, bref. Donc, j'essaye de faire la synthèse. Donc, trahison ou pas, de toute façon, Maduro est enlevé. Et ça donne lieu quasiment instantanément à une conférence de presse de Trump qui dit « Regardez, on est les plus forts, on fait ce qu'on veut, partout on veut comme on veut. Bon, » voilà. Donc, affirmation de puissance maximum. « Je suis le maître du monde. La force prime le droit. Ce que tu as meuplé, je le prends. Et puis c'est tout. » Alors, et il rappelle que le pétrole doit revenir aux États-Unis, bien entendu, puisque tout leur appartient. Alors que ce soit celui-là, celui du Nigeria, peut-être celui du Groenland. C'est... Alors la date est fixée. Dans deux mois, le Groenland sera envahi.
Hein, bon. C'est incroyable.
Il a déjà commencé.
Il avait déjà annoncé. Mais la date est fixée. Il a annoncé que c'était dans deux mois. Donc, citoyens du Groenland, citoyens danois, apprêtez-vous. Hein, préparez vos masques à gaz et vos abris souterrains. Bon. Donc, on en est là. Donc la force prime le droit et il faut savoir comment le reste du monde réagit par rapport à tout ça. C'est là que ça mérite...
C'est là que c'est important, moi j'ai dit. Hein.
Oui, mais oui, parce que c'est le reste du monde.
Moi, la Russie, la Chine, les pays BRICS, je ne sais pas.
Ben voilà.
Alors, je suis maintenant vraiment...
Voilà. Non, mais les BRICS, par exemple, bon, non, j'ai parlé des Émirats Arabes Unis, manifestement, c'est des voyous, hein, puisqu'ils essayent de favoriser la division de la Libye, ils sont intervenus contre les Palestiniens, ils sont encore derrière, je pense, l'histoire du Somaliland, puisqu'ils avaient essayé une première fois, donc aucune confiance, bien qu'ils soient... Enfin, être membre des BRICS, ça n'exonère et ça ne veut rien dire, en partie.
Ils veulent la Somalie, là, une partie. C'est pour Bab el Mandeb, Chatal Arab.
Et puis
ils veulent mettre la main dessus. Et puis détruire. Ils ont mis la main dessus, ça y est.
Et détruire les Yémen.
Et
détruire le Yémen.
L'Égypte, elle est contente aussi. Hein.
Ben bien sûr. Alors, là aussi, l'Égypte est dans les BRICS. Bon, enfin, bon, voilà. Il y a beaucoup à dire. Enfin, il ne faut pas s'attendre à ce que ce n'était pas. On a passé notre temps à le dire ici à ce micro. Les BRICS, ce n'est pas une alliance militaire, une alliance politique.
Non, c'est vrai.
C'est un rassemblement de gens qui disent on pourrait un peu se désolidariser du système du dollar. C'est pas plus que ça.
Et puis même Bernard, les Nations Unies,
Alors, que font les Nations Unies ? Je crois que c'est le moment d'y arriver. Alors, je m'arrête un peu quand même sur la République française, parce qu'on est... Ouais. Il est 7h30 du matin dans la nuit du 2 au 3. C'est-à-dire que l'opération à Caracas vient de s'achever. Alors, je n'ai pas calculé avec le décalage horaire, mais il y a très peu de temps. Et voilà ce qu'écrit M. Emmanuel Macron dans un tweet de 7h30 le 3 janvier. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolas Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolas Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. Voilà, pour M. Macron, de la même façon que M. Guaido était président de la République, M. González Urrutia, donc, qui est le bras droit de Mme Machado, prix Nobel de la paix, a été élu. Bon, peu importe le résultat d'élection, peu importe que tous les observateurs internationaux qui étaient là aient dit que l'élection était régulière, pour M. Macron, c'est M. Edmundo González Urrutia qui a été élu.
Ils ont toujours l'esprit colonial, malheureusement.
Voilà, c'est... voilà qui nous avons à la tête de la République française.
Il défend son cousin.
Ouais,
voilà.
Ouais.
C'est lui-même.
Alors, il continue. Je m'entretiens en ce moment avec nos partenaires de la région. Alors, on voit à peu près qui c'est. C'est le roi de la banane. Je riais parce qu'on a souvent parlé de république bananière. C'est un mot classique dans le vocabulaire politique. Mais quand on a affaire à M. Noboa, qui est le roi de la banane stricto sensu, le plus grand exportateur mondial de la banane, on a affaire à la république bananière de la plus grande grandeur. Donc, nos partenaires de la région, c'est effectivement lui. C'est un peu le Pérou encore que le gouvernement gouverne pas grand-chose. Et puis, je ne sais pas qui encore. La France est pleinement mobilisée et vigilante, notamment pour assurer la sécurité de ses ressortissants en ces heures d'incertitude. Bon, on n'a pas entendu dire, on n'a rien vu qui aille dans le sens de manifestations, car il y a des manifestations au Venezuela. Il y en a eu dès le matin, il y en a eu le lendemain, il y en aura pratiquement tous les jours. Il n'y a pas eu de menace sur quiconque. Et c'est là que je vais revenir à la situation réelle au Venezuela. Qu'est-ce qui se passe depuis au Venezuela ? Ben, il se trouve que M. Maduro n'est pas là, mais il est prévu dans la Constitution que quand le président est empêché, il peut être malade, il peut avoir un accident de voiture, il peut avoir je ne sais pas quoi. Donc, c'est prévu dans la Constitution, c'est la vice-présidente qui occupe son poste tant qu'il est empêché.
Une femme.
Ouais, voilà. Et donc, effectivement...
Une femme, ben, il est,
Une femme.
C'est une femme.
C'est une femme, oui.
Voilà. Et c'est une femme, et ce n'est pas n'importe qui. En plus, il s'agit donc de Mme Delcy Rodriguez, qui était donc la vice-présidente en titre, qui était une des architectes de la politique des communes et de la politique de l'autosuffisance alimentaire, très très active, qui a porté tous ces projets-là, dont j'ai fait état tout à l'heure, volontairement avec une énergie très très importante. Donc elle est éminemment respectable. Éminemment respectable. Et donc, elle a été reçue par ce qu'ils appellent le Conseil constitutionnel, en gros. Elle a prêté serment pour remplacer le président pendant son absence. C'est tout à fait clair. Et hier matin, ou hier en début d'après-midi, elle est allée ouvrir la session parlementaire de l'année 2026.
Donc,
et elle a été reçue par le Parlement, dans le Parlement où il y a aussi des opposants. Mais ils sont là, eh bien, on ne les a pas mis en prison, il y a des opposants au chavisme, ils sont là. Mais de toute façon, aujourd'hui, la vie parlementaire continue. Donc on a affaire à un monsieur Trump qui fait le malin en disant « ça y est, j'ai le Venezuela à ma botte ». Et ce n'est pas vrai, parce que le Venezuela fonctionne, respecte sa constitution, respecte ses institutions, et la vice-présidente fait le travail qu'elle doit faire tant que le président est empêché.
Il ne faut pas oublier... moi, je l'ai vu, j'ai insisté, il y a eu des manifestations énormes pro Maduro.
Bien sûr. Bien sûr. Et voilà. Alors, et pas, ça, pas faut... que. Voilà.
Oui. Voilà. Où j'ai eu les informations dans les médias arabes.
Mayadine, ils ont un poste à Mayadine au Venezuela, ils ont tout filmé.
Voilà, il y a eu beaucoup de manifestations dans beaucoup de pays.
Le portrait de Maduro.
Y compris aux États-Unis, il faut savoir. Alors c'était intéressant, on fait à noter. Aux États-Unis, devant le tribunal où hier donc Maduro a été présenté, qui est à New York, il y avait à la fois des Vénézuéliens, il y avait des chavistes qui disaient « qu'est-ce que c'est, libérez-le » et tout, et d'autres qui disaient « c'est bien fait pour lui ». D'autres qui sont là depuis un certain temps aux États-Unis, qui considère que Trump a raison, en gros. Donc ça existe aussi dans l'immigration latino aux États-Unis, ça c'est vrai.
Bien sûr. S'ils sont là-bas, c'est pas pour rien. S'ils sont aux États-Unis.
S'ils sont partis, c'est pas tout à fait pour rien. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas assez à manger, qu'il n'y avait rien dans les épiceries, mais aussi pour d'autres raisons idéologiques. Alors, on en est là, c'est-à-dire que Trump fait croire qu'il n'y a plus de gouvernement au Venezuela, alors qu'en fait, le gouvernement fonctionne, est installé dans les règles légales.
Le ministre de la Défense et tout le monde.
Personne n'a été emprisonné, personne n'a été lynché. Non, le Venezuela fonctionne normalement et il lui manque juste son président.
Espérons-le que ça continue.
Voilà. Lequel président d'ailleurs a été présenté hier pour sa première audience devant le tribunal à New York. Alors, il est inculpé, bien entendu, on s'en doutait, de trafic de drogue.
Oui. Hein. C'est facile.
C'est facile.
C'est alors comme qu'il faut... le Hamas, c'est des terroristes. Alors, comme le Hezbollah, c'est des terroristes.
Alors, il faut savoir que l'administration en charge de la lutte contre la drogue, qui s'appelle la DEA aux États-Unis, hein, Drug Enforcement Administration, a fait un rapport dans le cours de l'année 2025 où elle dit que le Venezuela n'a rien à voir là-dedans. De temps en temps, il trafique de la drogue fabriquée ailleurs, passe par hasard par un port vénézuélien in fine, ou par autre chose, mais la source n'est pas là. Ça, tous les spécialistes, enfin, l'ONU, la DEA américaine reconnaît que ce n'est pas le lieu de la production de la cocaïne, ni du fentanyl.
Qui fabrique le...
Et on sait très bien que c'est la Colombie. La Colombie, c'est en gros 60% de la fourniture de la cocaïne mondiale.
De la de quoi? De la cocaïne?
La cocaïne mondiale. Ouais, la cocaïne. Vient en deux l'Équateur du marchand de bananes, là, donc, qui a 20%. Il vient ensuite le Pérou, qui est à peu près à 10%. Enfin, c'est là que ça vient. Et donc, ça a plutôt tendance à partir, non pas par le Venezuela. C'est pour ça que les 100 morts, les 100 pauvres pêcheurs qui ont été assassinés par l'armée américaine, ils n'étaient pas, a priori, impliqués là-dedans. Parce que ça partait pas des ports vénézuéliens. Ça partait des ports colombiens, équatoriens, ou un peu plus au sud, pour aller directement chez le client. Sont impliqués aussi, alors je le dis aussi parce que c'est très très important, est impliqué aussi le Mexique. Alors, pas tellement pour la cocaïne, mais comme point de passage et comme lieu de fabrication du fameux fentanyl, qui est la nouvelle drogue chimique.
Mais ce passage, il y a certaines régions de l'Amérique, il y a plus de 40% des Mexicains.
Mais bien sûr.
Qu'est-ce qu'il peut faire,
bien sûr.
Trump
bien. Et donc, on en arrive à cette situation donc paradoxale où Trump dit « ça y est, le gouvernement vénézuélien, il m'oblige ». Et de toute façon, il a même dit « si Mme Rodriguez ne m'obéit pas, il va lui arriver des malheurs ». Et ça sera encore pire que pour Maduro. Ça veut dire « je vais assassiner Mme Delcy Rodriguez ». Mettez-vous bien ça dans les oreilles. « Je vais assassiner Mme Delcy Rodriguez ». Donc, on a affaire à un bandit de grand chemin, dangereux, armé.
Mais voilà, c'est pour ça... Bernard, qu'est-ce qu'ils font aux Nations Unies? Qu'est-ce qu'ils font ces grandes puissances, la Russie, la Chine?
Alors,
me pose des questions.
Non, mais il faut se les poser, parce qu'on peut dire effectivement, il y avait des armes russes qui n'ont pas fonctionné. Alors, est-ce qu'elles ont été neutralisées? On ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, il y avait une manifestation chinoise de soutien, puisque la Chine a acheté beaucoup du peu de pétrole vénézuélien qui continue à être extrait. On avait quand même baissé les quantités dans le rapport de 10 à 1, mais il continuait à en sortir un peu. Et donc, une bonne partie de ce pétrole vénézuélien allait en Chine. Donc là, il va avoir plus de difficultés. De toute façon, pour l'instant, il y a le blocage. Bon. Donc, on avait deux alliés, un allié concret qui achetait le pétrole, un allié militaire qui avait passé un accord stratégique. Ils n'ont rien fait. Alors, est-ce qu'ils n'ont rien fait ou est-ce qu'ils ne sont pas en train de penser à autre chose? Je vais en revenir à la question de... Quel est l'outil, enfin, quelle est la monnaie avec laquelle on achète le pétrole aujourd'hui? Je reviens à ce qu'on appelait la question du pétrodollar. Il faut savoir que depuis la fameuse crise de 73-74, donc il y a eu, on a dit bien sûr, augmentation du prix du pétrole, mais il y a eu surtout obligation d'avoir des dollars pour acheter du pétrole du Moyen-Orient. C'est la même chose pour le pétrole de Venezuela, dont on parlait beaucoup moins. Ça veut dire que tout pays qui n'avait pas de pétrole, en commençant par la France, nous on a des idées mais on n'a pas de pétrole, vous vous souvenez de Michel Jobert,
tout
pays qui n'avait pas de pétrole, et il y en a beaucoup, et en particulier en Europe, personne n'a du pétrole pratiquement, les Anglais avaient un peu de gaz dans la mer du Nord, mais c'est presque fini. Bon, et donc tout pays qui n'avait pas de pétrole était obligé d'avoir des dollars. Hein. Et donc le dollar devenait une monnaie dont il fallait absolument acheter des grandes quantités pour pouvoir avoir de l'énergie. Ça, c'était ce qu'on appelle le règne du pétrodollar. De fait, le dollar s'est répandu sur la planète entière, alors que le dollar était un instrument triché. J'explique. À la sortie de la guerre, le dollar est indexé sur le cours de l'or. C'est-à-dire que, comme toute monnaie papier, il y a une garantie correspondant à un stock d'or qui a une certaine valeur, qui est stocké à Fort Knox dans le Texas, sur le territoire des États-Unis. Et on dit, j'émets des billets à proportion de la réserve d'or que j'ai. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit, je ne veux pas de vos billets, je veux de l'or à la place, on peut le faire. Ça peut se faire entre États. Moi, État X, je ne veux pas de vos dollars parce que je n'ai pas trop confiance, mais je veux de l'or à la place. Il faut avoir de l'or pour le faire.
Marianne, c'est comme la Syrie. Elle avait une réserve d'or. Oui. L'euro, il valait à cette époque, en 2010, 40 livres syriens. Et maintenant, ils sont à 12 000, 14 000 livres syriens, 1 euro. Alors, bon, c'est tort. Où elle est partie, alors? Voilà, on ne sait pas.
Donc, les États-Unis se détachent de l'or. C'est ce qu'on appelle le coup d'État de Nixon. Donc, c'est en 71. Il dit, désormais, il n'y a plus de rapport à l'or. Hein. Et donc, c'est le pétrodollar qui prend la place. Donc, j'impose le dollar avec la valeur que moi, je lui donne
je
à l'ensemble
le plus fort
du monde. Alors, l'URSS, à l'époque, échappait puisqu'elle avait son système économique clos qui fonctionnait. Mais autrement, tout le monde était obligé de passer par le pétrodollar. Ce qui est en train de se passer, et c'est contre ça aussi, c'est une des raisons du coup d'État au Venezuela, c'est que beaucoup de pays, en particulier du Moyen-Orient, sont en train de dire, mais à la limite, le pétrodollar, on n'en a plus besoin, et même il faut qu'on s'en débarrasse, et on va négocier avec nos clients, en particulier la Chine, qui a besoin de pétrole pour faire fonctionner toute son industrie, qui est très très importante, on va accepter d'être payé en yuan. Et ce n'est pas de la monnaie de singe, parce que quand l'Arabie saoudite ou le Qatar ou les Émirats reçoivent des yuan du gouvernement chinois, ils savent quoi faire de ces yuan. Ce n'est pas une monnaie dont on ne sait pas quoi faire, on ne peut rien acheter. On peut acheter aujourd'hui en Chine tout ce qu'il est possible d'acheter au plus haut niveau de la technologie contemporaine. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des t-shirts et des baskets, il s'agit d'acheter ce qu'il y a de plus pointu dans les technologies contemporaines. Donc aucun pays qui veut se développer, se moderniser et tout, n'est gêné le fait de faire son commerce en yuan, puisqu'avec du yuan, il peut accéder à la totalité de la production industrielle chinoise. C'est-à-dire avoir tout ce qu'il y a, et beaucoup plus même qu'aux États-Unis. Car il faut savoir que la Chine aujourd'hui produit des objets qui ne sont plus produits aux États-Unis, et que les États-Unis d'ailleurs achetaient jusqu'à ce qu'on en soit à la situation actuelle. Bon. Donc c'est ça qui est en toile de fond, c'est-à-dire donc se débarrasser du pétrodollar, et donc organiser tous les circuits d'achat et de vente d'énergie en d'autres monnaies, le yuan, ça peut être l'euro, chaque pays qui achète du produit donc gazier ou pétrolier le fait avec sa monnaie, et le pays donc qui reçoit peut acheter ce qu'il veut sur le marché international, où maintenant on trouve ce qu'on veut. On trouve ce qu'on veut, je veux dire, en Chine, éventuellement en Russie ou dans d'autres pays. Donc c'est ça aussi la grande évolution qui est en cours, mais c'est moins immédiatement sensible dans le discours politique, ça passe pas trop ça. En fait, c'est ça qui motive profondément les États-Unis, c'est-à-dire que tout pays qui aujourd'hui décide de plus se servir de dollars, ben, il lui arrive pratiquement rien. Il n'y a pas de conséquences. Alors, bien sûr, le FMI ne lui prêtera pas d'argent, mais il y a une banque, il y a la banque des BRICS, il y a des banques, il y a la banque asiatique de développement, il y a une banque africaine de développement. Donc, en fait, un pays qui a besoin d'emprunter pour son développement n'a pas besoin d'aller se mettre à quatre pattes à Washington à l'entrée du FMI et de la Banque mondiale. Ah ouais, c'est fini. Et c'est ça qui explique la violence de l'opération vénézuélienne, c'est-à-dire qu'ils voient ce pouvoir monétaire leur échapper. C'est déjà vrai aux trois quarts, ça ne fera que se confirmer dans les semaines ou les mois qui viennent, parce que tous ceux qui observent cette situation maintenant disent effectivement, j'ai plus besoin du dollar, puis si en fait je suis dépendant du dollar, je suis dépendant d'un monsieur qui aussi bien va venir m'étrangler demain matin, donc et coupons les ponts. Et c'est là qu'on en arrive, je regarde un peu l'heure, arrive au débat du Conseil de sécurité hier.
Ouais.
Débat extrêmement intéressant. Non, mais débat extrêmement intéressant parce qu'il a bien délimité les camps. Il a bien délimité ces camps. Alors, il faut savoir que c'était la nouvelle composition, puisqu'il y avait de nouveaux élus dans les non-permanents, donc dans les 10 non-permanents. Et il y avait en particulier deux sur lesquels je vais m'arrêter parce qu'ils ont été discrets et modestes. C'était deux diplomates femmes, je précise. Une diplomate érythréenne. Alors, pas beaucoup de monde sait où se trouve l'Érythrée, mais ça existe. L'Érythrée qui a arraché son indépendance par la guerre en 1992. Et donc, cette dame parlait au nom du groupe des 10. Alors, vous ne savez pas ce que c'est que le groupe des 10. C'est un groupe formé par 10 membres de l'ONU, dont sont membres la Russie et la Chine, qui dit qu'il faut que les pays membres de l'ONU respectent la charte des Nations Unies.
Ouais.
Et elle a dit, au nom de ce groupe, c'est-à-dire moi qui suis la diplomate érythréenne, cette très, très très modeste, elle n'a pas parlé très haut et très fort et très longtemps, mais elle a dit, voilà, je parle au nom du groupe des 10, ça veut dire que je parle avec l'accord de la Russie et de la Chine, pour vous dire qu'on n'accepte pas et qu'on demande que Maduro soit libéré.
Ouais.
Bon, bon, Ça, c'est bien.
J'ai écouté.
Et vous avez une deuxième dame, très aussi modeste dans son apparence, qui n'a pas fait d'éclat de voix, etc., qui était la représentante de l'Ouganda au Conseil de sécurité. Et l'Ouganda a parlé au nom du mouvement des non-alignés. Alors, le mouvement des non-alignés, c'est un vieux mouvement héritier de Bandung, la conférence 55, mais il y a quand même 120 pays dans le mouvement des non-alignés. Ah. Donc, cette modeste dame, très timide, devant le Conseil de sécurité, qui dit, ben voilà, je parle au nom du mouvement des non-alignés, elle parle au nom de 120 pays qui disent, non, nous, on n'accepte pas ce coup d'État et on demande la libération de M. Maduro.
Mais on ne l'a pas vu à la télé.
Pas toutes. Si on l'a vu, non, moi je l'ai vu sur Télé Sud, mais je sais pas sur quoi tu l'as vu, toi.
Moi, je regarde que le Meyadine. Voilà. J'écoute les débats, le Meyadine.
Pas sur les chaînes officielles. Donc c'était très très gênant. Il y a 120 pays plus les 10 qui sont à la limite les intégristes de la Charte des Nations Unies, dans lesquels il y a la Russie et la Chine, qui disent non, on n'accepte pas. Et ça, c'est très intéressant. Et je dis ces deux petites dames avec leurs cheveux blancs très modestes. Qui disait, mais attendez, nous, on parle quand même au nom de 120 pays, pourriez un peu nous écouter 5 minutes. Mais évidemment, on ne les passe pas à la télévision.
Bernard, c'est facile de parler. On parle, et puis derrière, il y a.
Alors, la suite.
Voilà,
la suite, c'est que quand même, il y a donc pas mal de monde, y compris la Chine et la Russie, qui disent qu'il faut arrêter la comédie, il faut libérer Maduro.
Il faut libérer
tout
Maduro.
De suite.
Bon, ouais.
Ça, c'est très important.
Ça a été clairement dit.
Et donc, ça veut dire qu'à partir de hier, même à partir d'avant, la Chine et la Russie feront ce qu'il faut pour aller toujours dans le même sens de la dédollarisation de l'ensemble de l'économie. Alors, ça se voit moins, mais en fait, c'est ça qui est très, très important. C'est-à-dire, moins il y aura de pays dépendants du dollar, plus les pays seront libres de leur mouvement par rapport aux États-Unis. Qu'il soit socialiste, pas socialiste, c'est pas important. C'est la question de la dépendance de la monnaie dominante. La monnaie est d'ores et déjà plus tout à fait dominante et elle le sera de moins en moins. Et c'est ça qui se joue.
Mais ça se joue pas
en 5 minutes. Ça se joue dans le temps avec des gens volontaires. Et donc, c'est ça qui est intéressant à noter. Et donc, dans ce contexte, la position de la France est catastrophique. C'est-à-dire que la France est du côté des durs pro-américains qui disent qu'il faut continuer comme ça. Donc ça veut dire
que l'Amérique a affaibli énormément l'Europe, même la France.
Tout à fait.
Eh ben non, ils suivent toujours.
La France, le gouvernement.
Le gouvernement. Qu'est-ce qui représente la France? C'est le gouvernement. Hein.
Voilà. Alors, c'est intéressant aussi de voir ce que ça fait au niveau de l'Union européenne. Par exemple, qui a le plus applaudi le coup d'État de Trump? C'est Madame Meloni.
Oui.
C'est Madame Meloni, seule gouvernement.
Ah
oui, elle a applaudi. Elle est enchantée. Oui, avec l'Argentine, avec le Paraguay, avec Trinidad et Tobago.
Il peut parler l'Argentine.
Voilà,
c'est lui qui devrait être.
Voilà. Et donc, en fait, là on a le cas. Alors, on a là, si vous voulez, l'internationale brune, je l'appelle ça comme ça, l'internationale fasciste, dont Netanyahou et Trump sont les parrains, les deux parrains, l'un pensant à la place de l'autre. Je pense qu'on est clair là-dessus. Et il y a un certain nombre de gens qui sont dans ce camp-là. Donc, Trinidad et Tobago, les pauvres, ils sont juste à quelques encablures. Ils ont été occupés par l'armée des États-Unis depuis trois mois déjà. Le Paraguay, n'en parlons pas. Pas intéressant. Et l'Argentine. Bon. Et puis, il y a ceux qui disent comme ça, « Oh, ça ne se fait pas d'enlever les présidents. » Mais enfin, alors, il faut savoir que le premier tweet de Macron que j'ai lu tout à l'heure a été suivi quand même d'une petite retouche du ministre des Affaires étrangères qui a dit là, il est allé un peu vite, hein, il a obéi, il est tellement pro-américain jusqu'à la moelle qu'il est allé de son communiqué de victoire et de satisfaction, et puis au ministre des Affaires étrangères, on a dû dire quand même là c'est un peu dur, on est vraiment trop pro-coup d'État, ça fait pas joli, donc il a un peu barreau, un peu enrobé,
masqué,
le message, un peu radouci le truc. Toujours est-il que la France se trouve du côté de ceux qui disent ça se fait pas trop, mais enfin, ça valait la peine, hein, en gros. C'est à peu près ça.
Le dictateur Maduro.
Voilà, puisque c'est un dictateur.
Ça vaut la peine pour Maduro, pour Bachar al-Assad, pour Kadhafi, pour...
Bachar al-Assad, il leur a échappé.
Je ne sais pas comment ça a été fait, mais vraiment, c'est...
Dans ceux qui sont hypocrites, hein, donc l'hypocrisie maximale, c'est quand même pas très joli. Après, puis ils se sont rendus compte quand même des réactions intéressantes. C'est pas très joli à montrer, cette opération. Mais ils sont quand même contents que ça ait eu lieu. Donc on retrouve là le Danemark, on retrouve la Grèce, on retrouve la Finlande, on retrouve le la Lettonie et bien entendu les Émirats arabes unis.
Ah ouais, bon,
évidemment, bon, qui se moque comme du nid de la démocratie, puisqu'elle n'existe pas.
On ne doit pas les appeler les Arabes. Ces gens-là, on ne doit pas.
Alors après, il y a un troisième camp qui est ceux qui disent c'est pas bien, puis quand même, il y a quand même des méthodes qu'on n'utilise pas. Alors, on retrouve là la Colombie, on retrouve l'Algérie, on retrouve le Bahreïn, on retrouve qui encore ?
Le Bahreïn, ça m'a étonné.
Le Pakistan, qui disent quand même, on est allé un peu loin. Et puis, il y a ceux qui disent non, et libérer Maduro. C'est donc le mouvement des non-alignés, le groupe des 10 et la Russie et la Chine. Voilà. Ouais. Alors, ça donne la cartographie de la politique internationale pour l'année qui est en train de commencer. C'est-à-dire, on y voit plus clair. Il y a une internationale fasciste qui est constituée. Et qui est capable, enfin qui fait ce qu'une internationale fasciste est capable de faire, on le sait, on est prévenu. Donc si on ne veut pas que cette internationale fasciste gagne, il faut que nous en ayons conscience et qu'on ne soit pas à dire « Maduro ceci, et Maduro cela ». Ce n'est pas le problème, c'est pas le problème. On a des fascistes à la porte du gouvernement en France, on a des fascistes au gouvernement en Italie, on a un chancelier allemand qui est un descendant de l'hitlérisme, qui veulent faire la peau russe, c'est ça la réalité. Je parle pas des Britanniques là, et on a affaire à ces sauts de Danois qui croient qu'en disant
est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pacifiques à obliger Trump de céder? Il doit y en avoir quand même.
Alors, c'est la question monétaire, à mon avis, qui va être jouée, et puis peut-être sur d'autres choses. Apparemment, ce qui est important à savoir, c'est que la Chine a arrêté, classiquement, depuis longtemps, la Chine et le Japon faisaient la même chose, souscrivaient au bon du trésor d'État. Il faut savoir que, c'est quand même à mettre en perspective, les États-Unis sont aujourd'hui le pays le plus endetté du monde. Des niveaux monstrueux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de fonctionner si quelqu'un ne leur donne pas de l'argent tous les jours. Alors jusqu'à l'année 2025, la Chine faisait partie des contributeurs réguliers. C'est une façon d'avoir des relations amicales. Vous avez des difficultés, je vous donne un coup de main, puis restons bons amis. Ça, on peut considérer que c'est terminé. C'est-à-dire qu'on sait que sur l'exercice 2025, la Chine a pratiquement vendu tous ses bons du trésor. Bon. Donc il n'y aura plus d'argent chinois qui viendront aider à couvrir le déficit américain. Si les Russes font pareil, et c'était le cas, et si beaucoup de gens font pareil, effectivement, les fins de mois vont être difficiles. Ça voudra dire quoi? Si les fins de mois sont difficiles, la Banque centrale, la Federal Bank, comme on dit, va continuer à imprimer des dollars. Il faut bien qu'il y en ait qui circulent. Mais ces dollars, dans la mesure où ils ne seront plus gagés sur rien du tout et qu'il n'y aura personne pour racheter les bons du Trésor américain, plus personne n'en voudra. C'est ça qui est le deuxième pôle d'affaiblissement de la dictature brune des États-Unis. C'est que si votre monnaie ne vaut rien, vous pouvez acheter personne. Et les 50 millions de dollars que peut-être les traîtres ont encaissés, ils ne vaudront rien du tout dans 6 mois. Alors tout ça, c'est des mouvements longs. C'est des mouvements profonds qui ne sont pas à la une des journaux, qui sont un peu compliqués à expliquer, etc. Mais c'est là qu'est le ressort de la guerre, qui est commencée. Et c'est pour ça que le procès, d'ailleurs, c'est très révélateur. La première audience du procès a eu lieu hier matin. Maduro est arrivé en disant « Je suis innocent, je suis le président du Venezuela, point à la ligne, j'ai rien à déclarer de plus. » Alors on a dit que l'audience a été levée.
Les Américains nous traitent de vendeurs de drogue.
C'est tout.
Alors que c'est notre pétrole, c'est nos richesses qu'ils veulent.
Voilà. Ouais. Alors que, et la prochaine audience est fixée à mi-mars, c'est-à-dire on ne va plus en parler du tout. On ne va plus en parler. Ils sont un peu embêtés parce que l'avocat qu'a choisi Maduro, c'est l'avocat de Julian Assange. Donc ça va être compliqué parce que c'est un vieux briscard du barreau américain qui est retors et qui saura faire des difficultés à l'appareil judiciaire mis en place par Trump. Donc, mais ça va devenir secondaire. C'est-à-dire que l'exigence de libérer Maduro va être de plus en plus forte, partagée par la majeure partie.
Et même la population américaine, attention aussi.
Voilà.
Ils sont divisés actuellement.
Tout à fait.
Il y a pas mal de, comment on appelle, pas des députés dans le truc américain. Il y a beaucoup de qui sont opposés à ça.
Hein. Oui, bien sûr.
Même, des républicains.
Tout à fait, oui. Parce qu'en fait, il y a aussi la perspective électorale aux États-Unis même. Trump, sur la base des derniers sondages, était en train de perdre, enfin, potentiellement la majorité aux élections du mid-term, donc en novembre 2026. Là, il a fait aussi ce coup pour remonter dans l'opinion et pour dire, regardez ce que l'Amérique est capable de faire. Bon, elle est capable de faire des horreurs, mais pour lui, il pense que ça va remonter sa cote. Alors, ce n'est pas du tout évident, puisque même dans le camp des Républicains, on commence à dire que les résultats ne sont pas brillants. Et puis, plus les difficultés financières, monétaires et l'opposition frontale de la Russie et de la Chine vont se manifester, plus ces gens-là vont dire, la politique MAGA, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout, et puis on n'a pas là le bon candidat pour la faire passer. Bon. Donc, les limites de Trump lui-même vont apparaître. Dernière chose.
Rappelle-toi, avant l'attaque de l'Iran par les Américains, pourquoi les Russes, ils n'ont pas installé ces fameux fusées qui atteignent les avions?
Bien sûr.
Ils ne leur ont pas donné.
Non, mais alors, à propos de fusées qui atteignent les avions...
Je ne sais pas s'ils n'en même pas. Pourquoi?
Écoute, le 3 dans l'après-midi, la Corée du Nord a tiré son premier missile hypersonique balistique en l'air pour dire aux États-Unis... Je vous attends.
Oui, mais il l'a dit.
Je vous attends. Hein, donc là aussi, ça se met en place. Hein. Alors, je voulais, avant qu'on écoute la dernière musique, qui est une musique qui rappellera aux Cubains qui sont menacés, ils sont dans le viseur. Mais ça fait 60 ans qu'ils sont dans le viseur, les Cubains. Ils sont habitués. Donc, la musique qu'on va écouter, c'est une musique qui fait allusion à l'attaque des États-Unis qui a échoué, ce qu'on appelle Playa Gijón, c'est-à-dire l'attaque de l'armée des États-Unis sur le sol cubain qui a échoué. Bon, ça sera la musique qu'on mettra en fin. Avant, ce que je voulais dire, c'est que l'association Médecins sans frontières vient de se voir retirer l'autorisation d'intervenir à Gaza par le gouvernement israélien, qui interdit à certaines ONG dont il a fait lui-même la liste d'intervenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a un article dans Le Monde, c'est dans Le Monde de ce matin, un article dans Le Monde où le président de Médecins sans frontières dit mais tout ce qu'on a fait, tous les gens qu'on a sauvés et tout, on ne sauvera plus personne. Et ils vont mettre à la place, le Mossad et Israélien, des organisations non gouvernementales qui feront ce qu'on leur dit de faire, c'est-à-dire lui soignez-le, lui ne le soignez pas, il mérite de mourir. C'est ça. Et Médecins sans frontières faisait son travail, heureusement, en disant lui il est malade, je le soigne, je ne regarde pas s'il est ceci ou s'il est cela. Bon, ça c'est ce qui est en train de se terminer. Ça veut dire que pour que le monde en arrive va réfléchir à ce genre de position, la position d'Emmanuel Macron va être de plus en plus difficile à tenir, y compris dans la droite française. Ça, on le verra pour la suite des événements. Donc, vous voyez, la table est bouleversée. Les facteurs d'évolution positive, j'en ai posé quelques-uns, c'est-à-dire que la multipolarisation suit son chemin petit à petit avec des difficultés. Trump a fait un coup d'éclat, et je pense que c'est un coup d'éclat qui n'aura pas beaucoup de suites positives pour lui, et plutôt des suites positives pour le camp de la multipolarisation et de la liberté des peuples. Voilà tout ce que je voulais dire, c'est un peu grandiloquent, mais je pense que c'est le moment de l'être à minima, avec toute la modestie nécessaire. Voilà, merci Camilla, et on écoute donc, c'est Silvio Rodriguez, le chanteur cubain, qui nous chante à propos de Playa Gijón, un échec des États-Unis.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez, hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades?
Voilà. Je reprends la parole. Donc, merci de votre écoute et on se retrouve évidemment mardi prochain à 15h30. Merci, Camille.
Your slave.